L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors, nous avançons dans ce cheminement que nous avons depuis maintenant deux émissions. Cheminement dans l'Ancien Testament. Ah donc, nous avons essayé de voir pendant les deux émissions précédentes combien l'amour de Dieu pour son peuple est en parallèle et de même nature, même que l'amour d'un homme et d'une femme, qu'un amour conjugal. Et puis aujourd'hui, nous allons découvrir peut-être davantage combien la libération du peuple hébreu qui est sorti d'Égypte, qui a traversé le désert du Sinaï pour rejoindre la terre promise, est en parallèle avec la libération du couple et de la famille par le Christ.
Voilà, nous allons reprendre ce grand récit du départ d'Égypte jusqu'à la terre promise et l'appliquer à nos vies conjugales.
Ah, en tout cas, on va essayer de tenter de l'appliquer à nos vies conjugales, en soi, comment ça peut éclairer nos vies conjugales. Alors d'abord, on peut reprendre l'épître aux Hébreux au chapitre 3, quand saint Paul souligne vraiment le cheminement du peuple hébreu avec le cheminement des chrétiens. C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme cela s'est produit dans le désert, dans la querelle, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent, me mettant à l'épreuve, alors qu'ils avaient vu mes œuvres pendant 40 ans. Car nous aussi, nous avons reçu une bonne nouvelle, absolument comme cela. Mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien, parce qu'ils ne restèrent pas en communion par la foi avec ceux qui écoutèrent. Voilà. Et saint Paul, en évoquant cet épisode du peuple hébreu dans le désert, reconnaît que le peuple hébreu a été libéré par Moïse, a traversé la mer Rouge, mais nombre des personnes qui ont, je dirais, été libérées, qui ont vu les merveilles de Dieu à ce moment-là, finalement, durant le cheminement au désert, finalement, ils se sont détournés de Dieu. Et donc, en cela, saint Paul et les apôtres et l'Église nous soulignent que le Seigneur peut faire des merveilles dans nos vies, mais que nous avons à être fidèles à cette promesse du Seigneur et nous avons à être fidèles dans le cheminement du Seigneur. Mais pour être fidèles dans toutes ces étapes, c'est pour ça, Maud, que nous allons essayer de reprendre ces étapes et notamment ce qui s'est passé avec cet exil en Égypte où le peuple est prisonnier des Égyptiens.
Voilà, donc on va essayer à chaque fois qu'on reprend une étape de l'adapter à un cheminement spirituel, à une situation dans laquelle nous vivons. Et c'est en fait comme l'épopée d'un chemin de foi. Donc effectivement, la situation de départ, c'est l'exil en Égypte. Le peuple hébreu est obligé de se réfugier en Égypte pour fuir la famine et pour survivre. Mais au fil du temps, ce refuge devient un esclavage et le peuple hébreu est maintenu en esclavage et la grandeur de Pharaon exige beaucoup d'esclaves et voilà que les esclaves tout trouvés, ça va être les Hébreux qui vont rentrer dans une dépendance mauvaise par rapport à Pharaon, qui ne pourront plus avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent et qui sont maintenus sous un joug d'oppression absolument affreux. Et Moïse, qui jaillit au sein de ce peuple, va justement se laisser transpercer par la parole de Dieu qui lui dit « J'ai entendu la misère de mon peuple et va, je t'envoie auprès de Pharaon pour libérer mon peuple ». Voilà que la situation est tellement dramatique que Dieu va intervenir. Et on peut essayer d'adapter ça à nos vies d'aujourd'hui et essayer de voir quels sont nos esclavages dont nous avons besoin d'être libérés.
« Voilà, bah écoutez, je pense que dans notre société moderne, société actuelle, nous sommes bien conscients en tant que personne, en tant que société, mais aussi en tant que couple, que nous avons beaucoup d'esclavage. Dans une société qui a effectivement la liberté, la démocratie, c'est un grand trésor, c'est un point très positif de la modernité. Par contre, nous sommes vraiment très esclaves de beaucoup de superficialité, beaucoup d'une société de consommation qui est centrée sur l'avoir et non plus sur l'être, qui a banni, je dirais, la vie spirituelle, la vie religieuse de son espace public et même et bientôt privé, et que cette vie est de plus en plus vide de sens. Et je pense que nous pensons véritablement qu'aujourd'hui, par rapport à des vies conjugales, des vies familiales, des vies personnelles, des vies de travail, des vies professionnelles, beaucoup parmi nos contemporains, parmi nous, prennent conscience que nous sommes dans une vie qui a besoin d'une libération. On ne va pas à quoi ça sert. Et je crois que le cri de beaucoup de jeunes qui se suicident, ou qui délirent, ou qui se droguent, sont là pour dire, mais attendez, ça va servir à quoi? Ça sert à quoi tout cela? Beaucoup de sociétés dites avancées sont des sociétés finalement qui sont suicidaires. Suicidaires également vis-à-vis des enfants à naître, et suicidaires également vis-à-vis de leurs plus anciens. Et donc, on sent bien qu'aujourd'hui, nous sommes également dans une société dont le peuple crie, de manière consciente ou inconsciente, directe ou indirecte, par ces craquements, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, enfin qui délire.
Voilà, et dans l'oppression, c'est souvent à ce moment-là qu'il y a ce travail, je dirais, de retour en soi, et qui passe par la reconnaissance de la soif que nous avons d'un Dieu, qui dépasse toutes ces choses. Et c'est ce que vit le peuple d'Égypte, exilé en Égypte, qui à un moment se rappelle des dieux, du Dieu de ses pères, et désire retrouver celui qui s'est annoncé comme celui qui est, comme le présent, comme celui qui demeure avec nous, et il veut retrouver ce Dieu qui lui donne le sens de son existence même, parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple élu à cette époque-là, c'est une toute petite tribu, quoi. C'est pas un peuple gigantesque comme on parlerait aujourd'hui d'une nation. Donc c'est une aventure, une poignée d'hommes à l'échelle de l'humanité qui sait que son identité est en Dieu, et que dans cette oppression, il crie vers son Dieu, il redit son besoin d'infini, de liberté et d'être rétabli dans la promesse que Dieu a fait pour lui.
Aujourd'hui, on est peut-être aussi dans cette démarche-là où beaucoup de couples aujourd'hui se disent, mais c'est pas possible, dans la situation dans laquelle on est actuellement, on voit plein de couples qui éclatent, qui délirent, qui se trompent, et pourquoi nous, on n'y passerait pas tôt ou tard, un jour ou l'autre. Et donc, il y a aujourd'hui cette prise de conscience, de dire, mais attends, mais finalement, mais quelle est la nature de la vie conjugale, quelle est la nature de la vie familiale? Et effectivement, comme le peuple hébreu, à un moment, s'est retourné vers le Dieu de ses pères, de la même manière aujourd'hui, nombre de couples, devant la situation aujourd'hui, disent, mais bon, attends, il faut retrouver, quel est le sens de la vie conjugale? C'est comme ça qu'un jour, on a été interpellé, je crois qu'on avait déjà témoigné une fois, alors qu'on sortait d'une retraite de couple d'un monastère, des couples qui visitaient ce monastère qui était aussi un lieu touristique, en nous voyant, on dit, mais attendez, qu'est-ce qui fait que vous rayonnez comme ça? C'est quoi ce qui vous habite? Et on leur a posé la question, pourquoi vous posez cette question-là? Ben voilà, parce qu'il y a tant de couples autour de nous qui sont en train d'être fracturés et de se séparer, et nous, on veut réussir notre couple, et voilà, on cherche un truc, et vous, apparemment, vous avez trouvé la solution.
Quand il dit vous, il parlait des couples chrétiens qui étaient présents là.
Exactement. Voilà, donc c'est bien cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, retournons vers le Dieu de nos pères, et c'est là où, en se retournant vers le Dieu de nos pères, nous découvrons la bonne évangile, la bonne nouvelle du Christ concernant le couple et le mariage, et effectivement, c'est pas simplement un rêve en bleu ou en rose, mais c'est vraiment une bonne nouvelle qui sauve, d'un Christ qui sauve le couple, et c'est concret, fait, c'est efficace. Et donc, effectivement, il y a ce désir d'accueillir cette bonne nouvelle.
Voilà, et puis il y a cet épisode du buisson ardent où Moïse fait un détour pour regarder un événement assez bizarre, un buisson qui brûle tout seul dans le désert et qui ne se consume pas. Et en s'approchant, il se rend compte que Dieu est en train de se révéler à lui sous la forme d'un feu d'amour, et qu'il est en train de l'appeler à cette mission qui va lui être confiée. Donc si on fait toujours ce parallèle, Alex, avec la vie des couples, eh bien voilà que Dieu nous engage à nous détourner un peu de notre chemin habituel, de notre routine, de sortir un peu de nos habitudes pour aller essayer de rencontrer ce Dieu qui est source de tout amour et brûlant. Et contrairement au feu de la passion, si je puis dire, c'est un feu qui ne consume pas. Il brûle, mais il ne consume pas. C'est-à-dire que nous avons le cœur rempli d'amour, mais pas dans le sens d'une destruction, dans le sens au contraire d'une préservation et d'une sorte de transfiguration de notre amour. Donc nous sommes incités en tant que couple à, quand nous sentons cette oppression ou une sorte d'asphyxie dans nos vies conjugales, eh bien faisons un écart, allons prendre le moyen de partir un peu en dehors de notre chemin, et essayer de retrouver ce contact avec ce Dieu tout autre.
Voilà, et avant effectivement de passer l'étape de la mer Rouge, il y a effectivement la préparation du départ, la décision du départ. Et c'est effectivement dans nos vies conjugales, notamment au niveau de nos fiançailles, au niveau des fiançailles, mais ça peut être également après X années de mariage, où on a décidé vraiment de renouveler notre vie conjugale, de renouveler notre alliance, avant de se dire, il faut aujourd'hui que nous partions. Il faut à ce moment-là quitter cet esclavage que le monde nous propose, et nous voulons retrouver cette liberté conjugale, cette soif de nous aimer, cette intensité de relation. Nous voulons vraiment accueillir Dieu comme un libérateur. Nous voulons dire oui, nous acceptons de partir avant de poser l'acte, de faire le passage, le grand passage. Mais ça, nous allons voir ça dans une minute. À tout de suite. Pour l'évangile et pour le couple, où nous essayons de faire le parallèle entre le cheminement du peuple hébreu qui va quitter l'Égypte, traverser la mer Rouge et rejoindre la terre promise au travers du désert du Sinaï, avec la vie conjugale. Et Maud, nous étions à cette bascule de la décision donc du départ et voilà, de la décision de traverser la mer Rouge et de quitter l'Égypte, de quitter ces Égyptiens.
Voilà, c'est cette expression qu'on va reprendre pour signifier comme nous avons besoin de quitter nos esclavages, et il y a une décision, on veut quitter nos Égyptiens et on veut partir, et on met sa main dans celle du Seigneur et on y va. Et le signe de ce départ, ce sera le partage de l'agneau immolé. Alors bien sûr, pour nous chrétiens, l'agneau immolé, c'est la préfiguration du Christ qui va donner sa vie pour nous libérer de nos esclavages. Et donc, cette préparation, elle se fait à la hâte, parce que quand une décision est importante, ben, il faut vite tout faire, il faut y aller. Et on n'est pas en train de retourner sans arrêt, de ressasser. Il y a une urgence, et donc les Hébreux vont partir et vont aller jusqu'au bord de la mer Rouge.
Voilà, et puis il y a cette fameuse traversée de la mer Rouge, où c'est ce passage extraordinaire, impossible, mais qui est rendu accessible, et le peuple est poursuivi par les Égyptiens, qui eux sombrent dans la mer, etc., on passe les différentes étapes, et donc effectivement, cette libération, cet accueil de libération, est inquiété, et parfois qui est vigoureux, et c'est aussi le sens, vraiment, du mariage, du sacrement de mariage, où le Christ réinsiste en appuyant sur, en se remémorant les textes de la Genèse, il faut quitter son père et sa mère, pour s'attacher à son époux, à son épouse, et c'est tout le sens aussi du sacrement de mariage, qui est de plonger dans la mort et la résurrection du Christ, notre amour, notre sentiment amoureux, cette alliance. Voilà, c'est la prise de conscience. Oui, nous sommes amoureux, oui, nous nous aimons, mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous aimer. Nous savons nos pauvretés, nos fragilités, et nous entendons que cet évangile est pour les couples pauvres, brinque-ballants, voilà, et que le Seigneur vient nous sauver et vient nous conduire et nous faire traverser cette mer Rouge de nos impossibilités.
Voilà, et ce qui est extraordinaire, c'est que ce traversée de la mer Rouge, ça signifie aussi que c'est un point de non-retour. On ne peut pas revenir en arrière. La mer ne s'ouvrira pas une deuxième fois. Donc, on a décidément quitté nos esclavages, nos passions, nos péchés. Avec le Christ, on va y aller et on va y arriver. Donc, on a fait un pas décisif et on ne revient pas en arrière. Donc, on ne retourne pas sur nos Égyptiens. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et qu'est-ce qui va faire le peuple de Dieu une fois qu'il va être de l'autre côté et qu'il va voir les Égyptiens et les soldats à mourir dans la mer? Il va acclamer le Seigneur et rentrer dans la louange pour faire mémoire de ce que le Seigneur a fait. Et ça, c'est un réflexe vraiment important dans nos vies conjugales. C'est de faire mémoire des moments que le Seigneur nous a demandé, nous a fait passer, des étapes qu'il nous a fait passer, des pardons qu'il nous a aidés à nous donner, et pour que la louange soit notre ferment d'unité. Oui, nous allons rendre grâce au Seigneur pour déjà toutes les étapes que nous avons traversées ensemble, et celles que nous allons encore traverser. Et si nous acceptons de faire mémoire de ces moments-là, nous serons plus forts pour les obstacles de l'avenir.
Je crois que c'est important également de, en repensant en cet instant à des vies conjugales, soit au démarrage de lors des fiançailles, juste de leur mariage, de début de la vie conjugale, soit des couples après plusieurs années de mariage qui ont découvert ou redécouvert le Christ dans leur vie conjugale, vraiment que le Seigneur a changé profondément leur vie et que c'est vraiment pour eux un roc. Et je crois que c'est important, ce que tu soulignes, Maud, de dire, à la fois, il a changé leur vie, mais effectivement, à des moments, le fait d'avoir changé profondément de vie, parfois c'est un peu angoissant, parce que c'est aussi déstabilisant. Et que de louer, de bénir le Seigneur, c'est aussi une manière, entre guillemets, de chasser nos vieilles angoisses, et même désirs, de revenir en Égypte. Nous avons... X fois, c'est vrai qu'à des moments, combien de fois il est dit, et c'est vrai aussi, que parfois la vie chrétienne est beaucoup plus exigeante que la vie finalement qui est non chrétienne. Et qu'à des moments, les plaisirs et les facilités d'une vie sans le Seigneur, parfois ça serait peut-être plus facile. Et donc effectivement, à des moments, nous avons, comme les Égyptiens, comme les Hébreux dans le désert, le souvenir des oignons d'Égypte. Oh, finalement, c'était peut-être pas si mal, cette vie d'esclavage qui était la nôtre, et donc nous avons la mémoire un peu de cette vie de cette vie en Égypte. Et c'est pour ça que la louange est toujours la faire mémoire de ce que le Seigneur fait dans nos vies, continue à faire dans nos vies, et de pouvoir le louer et le bénir.
Voilà, alors si les Hébreux étaient dans la louange, ils sont partis ensuite dans le désert, et là a commencé une aventure un peu longue qu'on appelle l'errance dans le désert, où ils ont mis tellement de temps à traverser cet espace géographique qui aurait dû leur prendre beaucoup moins de temps. Mais pourquoi ils ont mis tant de temps? C'est parce que c'était le temps de l'éducation. Et le temps de l'éducation, c'est le temps que Dieu prend pour nous malaxer, nous faire grandir, guérir nos blessures, guérir nos attachements, couper définitivement nos relents d'oignons d'Égypte, comme disait Alex. Et à ce moment-là, il va y avoir tout un temps qui sera plus ou moins long selon si nous avons ou pas la nuque raide. Alors cette nuque raide, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est notre orgueil, c'est notre rébellion, c'est notre incapacité à nous laisser faire par Dieu facilement. Et en fait on rechigne, on râle, on se bloque, on se braque, et on ne se laisse pas faire par l'évangile, par la bonne nouvelle. On ne se laisse pas évangéliser facilement, si je puis dire. Il y a une résistance en nous. Et plus on résiste, plus ce temps dans le désert est long. Et c'est vrai que dans ce temps de désert, il est arrivé beaucoup de choses, Alex.
Voilà, ben pendant ce désert, c'est l'acheminement par tous les errements, par toutes les difficultés, etc. Et ce sont les épreuves. Après l'expérience de la libération, ça s'inscrit après dans la durée. Et effectivement, ben, c'est les oignons d'Égypte comme on en a parlé. Et puis c'est la question du veau d'or. Et donc effectivement, c'est tous les chemins de traverse qu'on a envie de prendre. Mais le Seigneur, en cela, va nous conduire et nous bénir, notamment par deux manières particulières que sont la manne dans le désert et la nuée, la colonne de feu. Et je crois que c'est important, c'est que dans notre vie chrétienne, dans notre vie conjugale, il faut bien comprendre et entendre que le Seigneur vient nous donner une nourriture au jour le jour. C'est la nourriture de sa parole, c'est la nourriture de l'Eucharistie. Voilà, c'est comme il est dit, la manne, elle n'est pas stockée pour 48 heures ou pour une semaine. Elle tient que 24 heures. Et donc nous avons à recevoir au jour le jour cette nourriture de la part du Seigneur. Nous avons à la quémander, cette nourriture. Et puis, chose importante également, le peuple hébreu dans le désert est conduit par la nuée, par la colonne de feu. Et donc, c'est toute la vie dans l'esprit. Et donc, nous avons à accueillir ce don de l'esprit qui nous conduit. La nuée, c'est aussi le brouillard. Mais le Seigneur aussi nous conduit au travers du brouillard, par la foi en lui, par la foi que nous pouvons avoir en lui, par la vie dans l'esprit. Et ça, je crois qu'on l'a développé dans d'autres émissions. Toute la question de la vie de prière, d'accueil de cet Esprit Saint, d'être perméable à ce que l'Esprit dit en nous.
Voilà, cette idée de la manne et de la nuée, c'est aussi l'idée que le Seigneur nous guide au jour le jour, pour aujourd'hui, et pas pour dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et là, il faut que nous sachions rester dans notre aujourd'hui. Et dans notre aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur dit à notre cœur? Alors, il y a la rébellion, Alex, il y a toutes ces épreuves du désert, il y a les grâces de Dieu, la manne, la nuée, et puis il y a aussi la loi qui est reçue, la loi qui est une loi d'amour, qui est une promesse de Dieu. Oui, je te promets que tu arriveras à ne pas tuer, à ne pas voler. Je te promets que à travers ce chemin de conversion, tu vas t'approcher de moi pour arriver jusqu'à la terre promise, qui est quand même l'objectif de nos vies chrétiennes.
Voilà, et donc il faut bien comprendre que tout ce cheminement est un cheminement de conversion, où nous sommes travaillés de l'intérieur, où nous avons tout un travail de purification. Et effectivement, donc dans la vie chrétienne, il y a toute une étape de libération, libération des Égyptiens, traverser la mer Rouge, et puis après il y a tout le temps à traverser, des 40 ans dans le désert, c'est notre vie. C'est notre vie. Et effectivement, c'est le cheminement jour le jour où nous sommes tentés des veaux d'or, de revenir en Égypte, etc., etc. Mais c'est un travail de purification et de conversion. Et tout cela, pourquoi il faut se le rappeler, et c'est la promesse du Seigneur, c'est la promesse de la terre promise. Et donc, il faut bien entendre en tant que couple que nous sommes conduits, que le Seigneur nous conduit, nous a libérés pour nous conduire à la terre promise. C'est une promesse donc, et donc le Seigneur ne revient jamais sur sa promesse. Et au travers du sacrement de mariage, le Seigneur nous a dit, je te fais traverser la mer rouge, je m'engage avec toi au travers de la traversée de cette mer rouge, de l'alliance que nous allons sceller ensemble, que nous avons scellé dans l'agneau de Dieu, dans cette nuit pascale, et bien effectivement nous allons traverser la mer rouge et je te conduirai à la terre promise, je te conduirai vers le bonheur, malgré toutes les épreuves. Et c'est ça qui nourrit une espérance en nous, qui est une espérance forte, qui est aussi une certitude, parce qu'elle est inscrite dans la foi.
Voilà, donc si cette émission vous a donné envie de relire l'Exode, qui est cette grande épopée du peuple d'Israël, je pense que ce serait une bonne chose, et pour l'appliquer à nos vies de couple, et même pour une pédagogie auprès de nos enfants, dans ce qu'ils vivent dans leur vie spirituelle, ces images du peuple hébreu que nous avons essayé de brosser très rapidement peuvent être des bons repères et des images très explicites pour comprendre à quelle étape ils sont dans leur vie spirituelle.
En tout cas, cette grande épopée conjugale d'un cheminement dans la foi vers la terre promise, que nous vous quittons, nous vous saluons et nous prions pour vous afin que le Seigneur en toutes choses vous enseigne ce qu'il a à vous dire par sa parole et par son esprit. Soyez bénis.
The intimate friendship of the Holy Spirit. May the grace